RCF. Seconde émission sur RCF avec Monseigneur Laurent Daunien, consacré à Saint Charles de Foucault. Monseigneur Daunien a été de nombreuses années responsable au plan européen des fraternités Jésus Caritas de la famille, donc de Charles de Foucault. Pour Charles de Foucault, Monseigneur, on avance un impérieux désir d'annoncer l'Évangile. Et donc, il va le vivre en arrivant à Béni Abbès et le dire d'ailleurs, son projet.
Oui, alors lui, il a vraiment un projet d'annoncer l'Évangile aux musulmans. Hein. Il veut qu'ils découvrent le Christ. Il fait tout pour ça. Il leur montre des images. Comme il était bon en dessin, il faisait des dessins d'Évangile et puis il leur montrait les dessins parce qu'évidemment la langue, l'écrit, il savait pas lire, mais du coup les dessins, il pouvait faire un peu une petite catéchèse à partir d'images. Et du coup, comme ça, il a essayé, bon, c'est sûr qu'il s'est rendu compte que c'était pas simple d'annoncer l'évangile aux musulmans. C'est pour ça qu'il s'est plus penché ensuite sur cette présence aimante, en fait, toute simple. Mais il a quand même continué toujours à donner des images, à essayer de faire découvrir l'évangile, mais on voit que c'était difficile.
Et donc, annoncer l'évangile par l'amour, par la foi, par la prière.
Oui,
et
puis lui, si vous voulez, s'il est passionné, c'est comme Saint Paul, c'est comme les apôtres, c'est-à-dire, il dit, mais de toute façon, c'est la connaissance du Christ qui nous permet d'être sauvés, parce que Jésus, il est venu pour nous sauver, il est venu pour nous délivrer du mal, nous faire entrer dans sa vie, et du coup, pour lui, c'était prioritaire, mais il a raison, pour nous aussi, ça l'est. Voilà, je me dis, si on a pu ce feu intérieur d'annoncer l'évangile, il y a un problème, parce que c'est quand même ça qui nous fait vivre aussi, donc si on n'a pas envie de le faire partager aux autres, c'est embêtant. Et lui, justement, il voulait faire partager le plus largement possible, donc il voulait faire partager cette joie de croire, cette joie d'espérer dans la vie éternelle avec le Christ, cette joie d'être délivré du mal. Il l'a fait beaucoup auprès des militaires, hein. Il y avait beaucoup de militaires français qui passaient, des gens de passage, et du coup, il a eu tout un rôle qu'on oublie un peu quelquefois, comme aumônier militaire, quelque part. Bon, là. Même s'il préférait être assez loin des militaires, enfin, pas trop proche, parce qu'il ne voulait pas qu'on le mélange avec la colonisation, il voulait être un petit peu... même s'il était obligé d'être un peu dans la colonisation, lui, il s'y est un peu à part pour vraiment être tout seul avec les indigènes. Quoi.
Est-ce qu'on pourrait dire que Charles de Foucault, finalement, nous invite aujourd'hui, ou invite les chrétiens, à ne pas se décourager toujours d'annoncer la bonne nouvelle, parce que le Christ est premier d'une certaine manière.
Et surtout de ne pas avoir peur. Moi, je suis frappé de voir que beaucoup de gens, au nom de la laïcité, si vous voulez, vont dire, non, surtout, faut surtout pas qu'on parle de Jésus, etc. Mais pourquoi? Pourquoi on peut pas parler de Jésus? Enfin, je veux dire, les gens, on peut parler de Jésus. Il s'agit pas de faire du prosélytisme au sens où on va essayer de convaincre à tout prix, par tous les moyens. Non, c'est pas ça. Mais au moins que l'on témoigne ouvertement de sa foi et qu'on n'ait pas honte de dire qu'on est chrétien et de pas honte de dire que ça nous apporte énormément, que c'est pour nous vital, et rien que de dire ça déjà c'est quelque chose, puis après on répond aux questions. Mais au fond, c'est vraiment, à mon avis, c'est aussi une leçon qu'il nous donne. C'est nous dit, mais il faut pas baisser les bras, faut pas avoir peur, mais il faut avoir du respect, voilà, faites tout toujours avec respect et humilité. Ça me semble très important, parce qu'on n'est pas meilleur que les autres, on essaie d'être bon, mais voilà, on peut être aussi pécheur. Et donc, ce que nous voulons faire connaître, c'est l'amour du Christ et son évangile, c'est pas nous. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut faire transparaître le plus possible le Seigneur. En tout cas, il nous donne beaucoup de courage dans ce sens-là, oui, c'est vrai.
On peut dire que finalement, Charles de Foucault nous invite peut-être à une conversion missionnaire à nouveau, d'une certaine manière, et dans sa lignée, le pape François, c'est ce qu'il dit aussi. Hein.
Oui, la conversion missionnaire, c'est d'arrêter d'avoir peur, et puis de pas avoir de complexe pour parler de sa foi. Et puis, plus que ça, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où beaucoup de gens posent des questions. Moi, je remarque, hein, parce qu'ils n'ont jamais eu de caté, ou ils sont pas chrétiens. Et du coup, ils s'interrogent, ils demandent, mais pourquoi vous faites ça? Et du coup, comme à la messe avec Olivier Serge Foucault, où finalement, il y a des gens qui disent, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi il y a de la fumée, l'ensemble? Ils savent pas ce que c'est, mais pourquoi il y a ça? Et puis, ils cherchent à comprendre ce qui se passe. Et nous, on doit être capable de répondre. Et donc ça veut dire qu'on doit approfondir sa foi. La conversion missionnaire, elle commence par la conversion personnelle. Et d'ailleurs, Charles de Foucault le disait, mais convertir les autres, il faut d'abord se convertir soi-même avant de convertir les autres. Il a raison, c'est très évangélique. Mais du coup, Se convertir soi-même, c'est pas seulement renoncer au mal, c'est déjà renoncer au mal, mais c'est aussi approfondir sa foi. C'est-à-dire se plonger dans l'évangile, c'est-à-dire refaire une catéchèse d'adulte. Aujourd'hui, il y a des magnifiques catéchèses d'adultes qui sont proposées, des cheminements dans la foi. Il ne faut pas en rester à son catéchisme de l'enfance. Parce que là, vraiment, une catéchisme qu'on a eu dans l'enfance ne peut pas combler une vie d'adulte, c'est pas possible. Voilà, donc il faut approfondir sa foi et être capable de répondre aux questions des gens.
Continuer à la nourrir au fil des années, finalement.
Bien sûr, parce qu'on se convertit sans arrêt toute sa vie, et puis on essaie de progresser dans la vie chrétienne. Je pense qu'on n'a jamais fini de progresser. On doit toujours se convertir, même quand on est évêque. On doit toujours approfondir sa foi, se nourrir, pour être vraiment à la suite du Christ. Qu'on puisse vraiment être à la suite du Christ et répondre à notre vocation.
Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur. Parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur. Parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour.
Monseigneur, un autre aspect de la vie de Charles de Foucault, donc on a dit l'importance, hein, la nécessité impérieuse d'annoncer l'évangile, vous avez commencé à l'évoquer, mais pour annoncer l'évangile, eh bien, aspect important dans la vie de Charles de Foucault, c'est de chercher à rencontrer les gens là où ils vivent, à les connaître, et c'est partir de là en fait aussi d'une certaine manière.
Voilà, alors ça a été très intéressant, c'est aussi dans la spiritualité de Charles de Foucault ça, c'est-à-dire le fait d'aller à la rencontre des gens, y compris de ceux qui sont pas du tout comme nous. Voilà, parce que souvent, on a tendance à être avec ceux qui nous ressemblent et puis à former un peu des petits groupes. Et lui, il nous invite à sortir. Alors, c'est très pape François aussi, hein, sortir vers les périphéries. Et donc, il nous invite à aller rencontrer des gens qui sont pas comme nous, qui n'ont pas la même foi, qui n'ont pas la même religion, de pouvoir parler avec eux, de pouvoir échanger, et puis d'avoir une vie fraternelle dans le quartier où on habite et ne pas hésiter à s'intéresser à la vie des gens. Et lui, c'est ce qu'il cherchait aussi. Hein. Il cherchait à s'intéresser à la vie des gens, parce que pour lui annoncer l'évangile, ça suppose d'abord de connaître les personnes. Et donc, il vivait longtemps avec eux, il partageait leur vie complètement. Et du coup, il les connaissait mieux, et il finissait par vivre une certaine amitié, à développer une amitié avec eux. Et c'est comme ça qu'il a vécu sa vie de prêtre.
Et on peut dire aussi que, bah, par exemple, très concrètement, il a appris la langue touareg pour être avec des touaregs.
Ah ben ça, c'est la première chose qu'il a faite. Évidemment, il a appris la langue touareg. Il a même connu un peu l'islam, même pas mal même. Il connaissait même la religion. Il s'est intéressé. En plus, comme c'était un chercheur, lui, là, vraiment. Mais là, il a été plus loin, parce qu'au niveau de la culture touareg, en bon scientifique qu'il était, il a vraiment fait un gros travail hein, de recherche. À un moment donné, d'ailleurs, ça le prenait tellement qu'il disait qu'il priait plus assez, qu'il fallait qu'il reprenne un rythme de prière plus soutenu, parce qu'il était à fond dans le décryptage des poésies touareg et de la tradition touareg.
On peut dire aussi, puisqu'on parle donc de cette importance de rencontrer les autres, eh bien c'est finalement dans la spiritualité de Charles de Foucault, vivre une relation amicale avec des gens qui sont différents de nous, vous l'évoquiez. Ça, ça peut être important aujourd'hui à entendre pour les chrétiens quand même, qui sont minoritaires mais qui ont à chercher à entrer en amitié avec des gens différents d'eux.
Mais bien sûr, l'amitié, c'est la première chose qui compte pour annoncer l'évangile. Et c'est comme ça que Jésus a fait, au fond. Hein. Alors qu'à l'époque, il n'était pas question de rentrer chez quelqu'un qui était un pécheur, pas question de manger avec un pécheur, etc. Lui, il y a été carrément. Il s'est fait inviter à déjeuner chez Zachée, etc. Il a pas hésité à franchir un peu les limites qui étaient à l'époque les limites normales. On n'allait pas chez les gens qui n'étaient pas bien. Mais lui, il allait chez les gens qui n'étaient pas bien, justement. Et les gens qui n'étaient pas bien, ils ont été tellement touchés qu'ils sont devenus bien, parce qu'ils ont suivi le Christ, ils sont devenus disciples de Jésus. Donc c'est là où on voit que Charles de Foucault a voulu suivre le Christ dans cette manière de vivre, en fait, l'évangélisation, donc rentrer en amitié avec tout le monde et ne pas s'enfermer avec... Il aurait pu rester avec les militaires, hein. Il pouvait être aumônier militaire, et puis voilà, il aurait pu être très très bien, et il aurait fait du bon travail, hein. Mais là, non, c'est pas du tout ce qu'il voulait faire.
On pourrait dire que pour les chrétiens aujourd'hui, c'est aller à la rencontre, par exemple, sur leur paroisse, tout près d'eux, de leurs voisins, qui ne sont pas des pratiquants, qui sont dans d'autres lieux, dans d'autres manières de vivre. C'est ça aussi peut-être l'enjeu au moment où on réfléchit à des projets pastoraux, enfin, etc. C'est aussi ça une donnée importante aujourd'hui, continuer à aller à la rencontre.
Oui, c'est pour ça que moi, dans les projets de missionnaires, d'évangélisation que je demande aux paroisses, je demande que chaque paroisse fasse un projet, bah, un des aspects, c'est justement de connaître la population. Un petit peu comme Charles de Foucault dit, mais au fond, qui sont les personnes qui sont sur le territoire de ma paroisse? Qui sont-elles? Qu'est-ce qu'elles souhaitent? Qu'est-ce qu'elles désirent? Quels sont leurs besoins, leurs souffrances aussi? Et se faire proche des gens, les connaître, voilà, donc avoir un peu cette familiarité et même cette amitié, de développer des relations, au fond de développer beaucoup de liens avec la population, c'est important.
Monseigneur Charles de Foucault, une volonté de devenir le frère universel. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre sous cette expression « devenir le frère universel » ? Souvent, quand on parle de Charles de Foucault, on dit le frère universel.
Alors justement, bah ça, c'est, il l'a écrit à sa cousine Marie de Bondy, où il disait au fond... Moi, je voudrais être le frère de tous, je voudrais être reconnu comme le frère de tous, que ce soit des juifs, des musulmans, des idolâtres, tout le monde, je veux qu'on puisse me reconnaître comme le frère, et un frère universel. C'est lui qui a utilisé cette expression, bon, universel, ça veut dire le frère de tout le monde, quelle que soit la religion, quels que soient les sentiments, etc. Alors, évidemment, il ne faut pas se faire d'illusions. Quand on connaît la vie de Charles de Foucault, en fait, il n'a pas été... Il a eu forcément des amis plus proches. Il avait des amis qu'il aimait bien et avec qui il écrivait beaucoup. Il avait des relations épistolaires. Mais par contre, il a cherché, il a fait des efforts pour pouvoir être en contact avec d'autres chez qui il n'aurait pas, vers qui il n'aurait pas été spontanément. Voilà. Donc, en fait, c'est ça être frère universel. C'est essayer d'être reconnu comme un frère, même pour ceux qui sont vraiment différents de nous, quoi, et chez qui, vers qui on n'aurait pas été comme ça. Et donc c'est ce qu'il a cherché à faire, et je trouve que c'est pertinent aujourd'hui, parce que on est dans un monde qui se fragmente un peu avec des positions. Alors en ce moment, bon, c'est les élections, c'est normal, c'est politique. Qu'il y ait des positions politiques, c'est normal. Mais par contre, dans les différentes religions, la question des migrants, enfin voilà, il y a beaucoup de problèmes de fraternité. J'ai dit, on a du mal à vivre une vraie fraternité entre nous. Alors que dans une société, c'est nécessaire. Il faut vivre une fraternité entre les gens. puisqu'on cherche à construire une société ensemble. Et donc Charles de Foucault, pour ça, je trouve une bonne image, nous éclaire, je trouve, sur la manière d'être frère avec tous. Ça ne veut pas dire qu'on accepte n'importe quoi, hein, c'est pas du éclaxiste non plus. Il n'était pas d'accord avec certaines attitudes de des musulmans de son époque ou des marchands arabes qui passaient. Il peut avoir la dent assez dure quelquefois parce qu'il n'acceptait pas l'injustice. Oui, il n'acceptait pas des choses comme ça. Mais par contre, il trouve que c'est important d'être frère.
Quand on parle de fraternité, il y a aussi quelque chose de cette notion de frère universel, de réciprocité aussi, et que concrètement, Charles de Foucault va vivre, va expérimenter quand il va être malade.
Oui, parce qu'il a été, il a eu une maladie, alors je me souviens plus, c'est scorbut, ou en tous les cas, il mangeait pas assez, voilà, il avait pas assez de vitamines, si je puis dire. Il est tombé gravement malade, mais au point de mourir. Et ceux qui l'ont sauvé, c'est les Touaregs. C'est les Touaregs qui, voyant l'état dans lequel il était, lui ont apporté du lait, lui ont fait boire du lait, alors que c'était devenu très rare parce que les troupeaux avaient du mal à se nourrir eux-mêmes. Et donc, ils ont donné tout ce qu'ils avaient pour pouvoir l'aider, quoi. Ce qui était le plus précieux pour eux, ils lui ont donné pour qu'il puisse survivre. Et lui, alors là, ça l'a beaucoup touché, évidemment. Et c'est là, à mon avis, qu'il est devenu vraiment frère universel. C'est-à-dire qu'il a accepté que la fraternité ne soit pas à sens unique. Et qu'il puisse aussi se laisser toucher par être aimé par les autres, au fond. Parce qu'ils lui ont manifesté leur amour. Et se laisser sauver par les autres, et ben voilà, du coup, il a découvert ce que ça voulait dire d'être frère universel. C'est dans les deux sens, en fait.
On continue, Monseigneur, d'évoquer un autre aspect de la vie de Charles de Foucault, de sa spiritualité, l'importance de prendre le temps de se ressourcer. Et là, on peut remonter hein, dans sa recherche de vocation. Il a été moine, il a passé 3 ans à Nazareth, où il a beaucoup médité l'Évangile. Voilà, la nécessité de s'arrêter, de prendre le temps de se ressourcer.
Alors en fait, il a vécu une période à Tamanrasset, où il a énormément travaillé sur la langue Touareg, sur la tradition Touareg, mais trop. Enfin, je veux dire, il est passé des heures et des heures au point de fatiguer ses collaborateurs, parce qu'évidemment il ne le faisait pas tout seul, il fallait des Touaregs avec lui, et ils étaient épuisés parce qu'ils travaillaient tellement que c'était pas leur rythme. Et du coup, sa vie de prière a été vraiment diminuée. C'est là où il s'est rendu compte que ça n'allait pas. Et c'est là où il dit, il faut que je remette dans l'eau, dans la bassine, pour pouvoir la redistribuer. C'est-à-dire, si je me ressource pas, ben, au fond, mon ministère ne peut plus rien dire, parce qu'à ce moment-là, je ne peux plus témoigner de cet amour du Christ. Donc ça a été une expérience pour lui, voilà, un temps de conversion même. C'est-à-dire que c'était une conversion de découvrir que c'est bien de travailler à fond. Et je dirais que nous, dans notre vie, on connaît ça. Hein. On travaille comme des fous, on a des rythmes pas possibles. Et après, on se dit, mais attends, si je prie pas, quel est le sens de tout ce que je vis? Et il a fait cette expérience aussi. Voilà. Et il s'est dit, mais non, il faut que je reprenne un rythme de vie normal et avec une vie de prière qui me ressource, que je peux apporter aux autres.
Parce que prendre le temps de la prière, c'est jamais du temps perdu.
C'est jamais du temps perdu parce que justement, on s'imagine que, voilà, oh là, on dit, bah, mais oui, mais j'ai tellement de choses à faire, comment je vais pouvoir prendre quelques minutes de prière? Et en fait, quand on prie, eh bien, quelque part, on voit plus clair après sur ce qu'on a à faire en priorité. Donc ça permet de faire tomber des choses qui ne sont pas très, très utiles, de discerner. Voilà, de discerner qu'est-ce qui est le plus important dans ma vie. Et ça, au fond, ça nous fait gagner beaucoup de temps, parce qu'au lieu de nous précipiter à faire des tas de choses, une seule chose est importante, nous a dit Jésus à Marthe, qui s'agitait pour beaucoup de choses, mais c'est ça, mais au fond, la chose la plus importante, c'est de se mettre à l'écoute du Christ et dans la prière, et c'est ça qui permet après d'être beaucoup plus efficace.
Et d'ailleurs, ceux qui cherchent à vivre dans la spiritualité de Charles de Foucault sont invités à vivre des journées de désert. Ça dit bien ça, en fait, aussi. Prendre le temps de s'arrêter plus longuement pour se laisser rejoindre par le Christ.
Oui, alors Fraternité Jésus Caritas, sacerdotal, là, on s'est donné comme... Ça fait partie des règles qu'on se donne, c'est-à-dire une fois par mois de prendre une journée de désert. C'est-à-dire une journée, en fond, avec sa Bible et puis un cahier... Et puis c'est tout, quoi. Et puis son livre de prière, et puis on célèbre la messe, bien sûr, nous, comme on est prêtre. Mais une journée pour Dieu, quoi. Ouais, une journée pour Dieu. Ça commence à se faire un peu maintenant, 24 heures pour Dieu, vous voyez, des temps comme ça. C'est ces temps de désert dont on a besoin dans la vie frénétique que nous vivons aujourd'hui.
Charles de Foucault, engagé auprès des plus pauvres, et quand il est arrivé à Béni Abbès, il a été bien frappé par le scandale de l'esclavage, de la misère matérielle, morale de cette population. Ça le touche, ça aussi.
Oui, alors ça, effectivement, lui aussi, il était assez... l'injustice, il ne pouvait pas la supporter. D'ailleurs, la manière dont les Français colonisaient l'Algérie l'a choqué. Parce qu'on disait, mais oui, mais il a des collaborateurs de la colonisation. Mais en fait, il n'a pas pu faire autrement qu'aller avec les militaires. Il ne pouvait pas faire autrement. Mais par contre, il était très critique sur la manière de faire. Ce qu'il dit, mais si vous faites ça, si vous continuez comme ça, un jour, c'est lui qui vous mettront dehors. Et ben, il avait raison, c'est ce qui s'est passé. Hein. Un siècle plus tard, on s'est fait mettre dehors, un peu plus qu'un siècle. Non, même pas d'ailleurs, enfin voilà, donc très vite. C'est vrai qu'il a raison, il est monté, il était même prêt à monter à Paris pour rencontrer les députés, parce que bien sûr, l'esclavage était aboli déjà en France, hein. Mais là-bas, il n'était pas aboli dans la colonisation, parce que il y avait trop de risques de faire du tapage avec d'avoir des problèmes avec les gens du coin, donc bon, ils ont laissé faire l'esclavage, mais lui, il supportait pas ça, voilà.
Monseigneur, vous appréciez aussi la manière qu'a Charles de Foucault de se positionner comme prêtre.
Alors, au niveau politique, c'est vrai que il aurait pu prendre parti, mais en réalité, non. Lui, ce qu'il voulait, c'était vis-à-vis des députés, leur dire, les alerter sur les injustices, sur la question de la dignité humaine. En fait, c'était ça qui était premier pour lui, mais c'est pas lui qui allait prendre parti pour tel ou tel parti. Et moi, je trouve que ça, c'est quand même quelque chose qui est à vivre aujourd'hui. D'ailleurs, on essaie de le vivre comme évêque. Hein. On veut pas s'investir dans un parti. On veut pas dire il faut voter pour un tel ou un tel comme ça s'est fait autrefois. On est plutôt pour essayer d'aider les gens à réfléchir sur les questions de la dignité humaine à partir de la doctrine sociale de l'Église. C'est ce qu'on a fait dans le petit ouvrage « L'espérance ne déçoit pas » pour les élections actuelles, où en fait on exprime quels sont les fondamentaux de la foi chrétienne et de l'anthropologie chrétienne. Enfin, qu'est-ce qui est important aujourd'hui et qu'est-ce qui peut respecter la vie humaine? Et à partir de là, ben, chacun peut se prononcer, parce qu'on voit bien, les partis sont jamais exactement loin de là d'ailleurs, dans l'anthropologie chrétienne, mais il peut y avoir tel ou tel aspect, oui. Donc ça permet, de faire avancer un peu la réflexion politique, mais en gardant une certaine hauteur, voilà, sans s'engager au niveau des partis.
Parce qu'en même temps, on peut dire que les prêtres encore aujourd'hui sont aussi quelque part des sentinelles avec toutes les personnes qu'ils rencontrent. Ils sentent bien ce qui se vit au plus près dans la société, au plus proche, parce que c'est ça aussi quand même le ministère des prêtres aujourd'hui.
Bah, ils rencontrent beaucoup de personnes. Bon, ils sont pas seuls à faire ça, heureusement. Il y a des chrétiens engagés qui sont aussi très proches, hein. Mais disons qu'ils ont quand même une proximité avec les gens, et surtout le ministère de la confession qu'on critique quelquefois, c'est un très beau ministère. Et les gens se confient, c'est souvent le seul endroit où ils peuvent se confier vraiment. Et donc le prêtre, il est habité par tout ce qu'il entend aussi dans les confessions, et ça le fait réfléchir sur tout ce qui peut blesser aujourd'hui la vie humaine. Et c'est pour ça que le prêtre est un témoin important. Charles de Foucault a été un témoin important, je dirais, de ces blessures de la vie humaine qu'il a su exprimer, qu'il a su... Bon, même s'il n'est pas monté à Paris voir les députés, il a quand même il a écrit un certain nombre de gens. Voilà.
Autre aspect de la vie de Charles de Foucault, ou autre volonté, et puis c'est peut-être pour tout le programme de toute une vie, se laisser conduire par l'esprit, vivre dans un esprit d'abandon. Alors qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, on connaît sa belle prière, hein, « Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira ». L'esprit d'abandon, c'est exactement l'inverse de baisser les bras. Parce qu'on dit l'abandon, c'est on abandonne, etc. Mais c'est pas du tout ça. L'esprit d'abandon, c'est abandonner sa vie entre les mains de Dieu en lui disant « Je veux faire ta volonté, voilà. Mais je suis prêt à faire ta volonté, je m'engage ». Donc cet esprit d'abandon, c'est un esprit d'engagement, en fait. Engagement à pas en faire ma tête, mais à essayer de faire la volonté de Dieu. Et ça, c'est très évangélique. Et il l'a fait dans sa prière de Charles de Foucault en méditant sur la croix du Christ. Et quand Jésus, sur la croix, dit « Père, je m'abandonne à toi, voilà, je remets mon esprit entre tes mains ». Il a fait donc une longue méditation sur cette parole du Christ en croix. Et c'est de là qu'il a tiré cette prière. Et il a dit « C'est la prière du Christ au fond », parce qu'il fait parler le Christ là. Hein, et du coup, il dit que ce soit aussi notre prière. Mais la prière d'abandon, c'est tout un état d'esprit, c'est faire confiance aux autres et à l'Église aussi, hein, de suivre le chemin, laisser conduire par l'Esprit Saint, mais de faire confiance aussi à l'Église, voilà. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est important de retrouver ce sens-là, de pas lui, soi-même tout maîtriser, mais d'accepter de voilà, se mettre à la disposition du Seigneur, en discernant bien sûr, hein, en s'aidant du discernement des autres, du discernement d'un prêtre, et puis de faire sa volonté, quoi, de dire « je veux faire la volonté du Seigneur ».
On peut dire que d'une certaine manière, chercher à vivre dans cet esprit d'abandon, c'est aussi quelque part une conversion permanente à vivre au fil de sa vie, justement, en se mettant à l'écoute de la parole de Dieu, en vivant l'Eucharistie, enfin, etc., pour reprendre ou en discernant avec d'autres personnes. Et c'est de l'ordre de la conversion permanente à faire, à vivre, et que c'est pas toujours simple, en fait.
Oui, c'est une conversion permanente, parce que dans la mesure où on cherche à savoir à faire la volonté de Dieu, il faut la connaître, la volonté de Dieu, donc il faut la discerner. Et ça se vit dans la prière, la méditation des Écritures, mais aussi dans l'accompagnement spirituel qui nous aide à discerner. Et puis, voilà, peut-être en faisant partie de groupes, etc., qui méditent la parole de Dieu. On ne peut pas être chrétien tout seul, hein, donc discerner tout seul, ça ne marche pas. On a besoin de discerner avec les autres. Charles de Foucault, c'était compliqué, parce qu'il discernait tout seul, parce qu'il n'y avait personne autour de lui. Il écrivait à l'abbé Huvelin pour avoir son conseil, mais l'abbé Huvelin, il fallait 3 mois à peu près pour que la lettre fasse l'aller-retour. Donc le temps que l'abbé Huvelin lui réponde, il avait déjà pris des décisions. Mais nous, on n'est pas dans cette situation-là. On peut prendre les moyens de discerner quelle est la volonté de Dieu. On cherche toujours, bien sûr, on est toujours dans la recherche, mais ça impose une conversion permanente, effectivement, d'être dans cette mentalité-là.
Je voulais vous demander, pour terminer, Monseigneur, vous avez rencontré Charles de Foucault à l'occasion de votre ministère de prêtre et puis d'évêque aujourd'hui. En quoi cette rencontre avec Saint Charles de Foucault aujourd'hui, ça a transformé quelque chose dans votre ministère de prêtre et d'évêque aujourd'hui?
Ce qui est original, c'est que au départ, je ne suis pas rentré à la fraternité Jésus Caritas pour Charles de Foucault, parce que je le connaissais très mal. Pour moi, c'était un missionnaire en Afrique, très bien. Mais c'est surtout par rapport à sa spiritualité qui m'a attiré. Et en particulier, alors que j'étais jeune prêtre et que j'étais débordé comme tous les jeunes prêtres, ça m'attirait d'avoir cette exigence de méditer la parole, de prendre un temps de désert, d'adorer le Saint-Sacrement. Tout ça m'attirait dans cette fraternité. Et c'est après, une fois que j'y suis rentré, j'ai dit, mais quand même, il faut que je connaisse Charles de Foucault. C'est là que j'ai lu un peu tous les livres. Et au fond, j'ai découvert, et je me suis dit, au départ, je me disais, mais c'est pas une figure qui parle à un prêtre diocésain. Je me disais ça moi-même. Et après, j'ai découvert, en fait, dans ses écrits, en travaillant un peu, que si, il pouvait énormément éclairer la vie d'un prêtre diocésain, et ça m'a beaucoup éclairé personnellement. Et puis donc, maintenant, depuis des années aussi, moi, je vis ma vie de désert tous les mois, j'essaie de faire cette journée, j'essaie de suivre assez fidèlement, je dirais, un petit peu ce que nous demande la fraternité.
Est-ce que, si vous aviez un conseil, pour terminer tout à fait, un conseil de lecture à faire pour nos auditeurs concernant Charles de Foucault?
Alors, ça dépend ce qu'on cherche. Si on cherche vraiment un historique vraiment très, très précis, il y a des gens qui aiment bien quand c'est fouillé, on a Pierre Soubrisseau qui a écrit un très, très beau livre sur Charles de Foucault. Et moi, je le trouve remarquable parce que il est rentré vraiment, il a fait une très bonne étude. Et là, on rentre dans les détails de sa vie. Maintenant, si on veut quelque chose de plus spirituel, peut-être que les livres de Jean-Claude Boulanger ou Claude Roux, qui était l'évêque à ce moment-là au Sahara, récemment, là-bas, il a pris sa retraite. Voilà des livres qui peuvent nous inspirer. Il y a beaucoup de livres sur Charles de Foucault, hein, mais quelquefois on y découvre son côté scientifique, quelquefois on y découvre... Donc ça dépend un petit peu ce que l'on cherche, en fait. Mais si on veut connaître Charles de Foucault, le livre de Pierre Soubrisseau au départ est pas mal.
Eh bien, Monseigneur, merci beaucoup d'être venu nous parler de la vie et de la spiritualité de Charles de Foucault.
Merci à vous.